Nous sommes en studio, Paul Houde à Montréal. Je salue tous nos auditeurs et auditrices à la grandeur du Québec, mais aussi à l'étranger. Beaucoup de gens nous écoutent sur l'Internet, enfin via l'Internet. Nous vous saluons, où que vous soyez. Sabrina Rivet est avec nous en studio. Sabrina, on va diffuser dans 22 minutes la conférence de presse du premier ministre qui est de retour. Il s'est offert une journée de congé hier avec le docteur Arruda et Mme McCann. Mais vous avez peut-être aussi un autre rendez-vous qu'il faudra surveiller, peut-être.
Oui, voilà, ça devrait se passer en fin d'après-midi. On attendait possiblement des nouvelles relativement à ce qui se passe à Montréal et il devrait y avoir point de presse en fin d'après-midi de la Direction de la santé publique de Montréal avec la mairesse de Montréal, Valérie Plante, accompagnée également du chef du service de police de Montréal. Ça devrait se passer en fin d'après-midi. Je sais que nous devrions recevoir un communiqué de presse en début d'après-midi pour nous indiquer l'heure exacte, en fait, de ce point de presse, mais tout porte à croire que ce point de presse-là devrait avoir lieu en fin d'après-midi, ici même du côté de Montréal.
Alors, rappelons-nous, Sabrina, que c'était à 16 heures qu'était survenu l'état d'urgence locale.
Vendredi,
avec ce que ça voulait dire également, et que la mairesse, au moment de son point de presse, lorsqu'elle a déclenché à 16 heures officiellement cet état d'urgence locale, selon la loi, elle avait dit « je ne veux pas placer Montréal en confinement ». Mais elle avait dit « nous n'en sommes pas là ». Je pense que je la cite pas mal, là. Elle avait dit « nous n'en sommes pas là ».
Et ça, c'était vendredi, donc 48 heures plus tard. Est-ce qu'il y aura du nouveau? Est-ce qu'il y aura du développement? Bon, on le saura au cours des prochains jours. Prochaines heures, ça
fait. Une chose à la fois. Nous l'avons reçu il y a quelques semaines et malheureusement, on n'avait pas eu le temps. Tout était bousculé dans notre émission, tellement les nouvelles nous s'enchaînaient. Benoît Masse est professeur de médecine sociale et préventive à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Lui, il connaît ça, l'évolution des grandes pandémies, des épidémies. Comment elles sont nées, comment elles se sont propagées, comment elles sont revenues, combien de gens ont été fauchés à travers l'humanité, et surtout, comment, de façon des fois surprenante, ces grandes épidémies, ces grandes pandémies ont pris fin. Et puis, vous avez peut-être vu qu'il circulait certains articles où on cite Benoît Masse avec un indicateur. Qu'est-ce que c'est qu'un indicateur? L'indicateur R0. Benoît Masse est en ligne. Bonjour, Benoît Masse.
Bonjour.
Alors, on avait une conversation fort intéressante avec vous. Vous nous aviez parlé de grandes pandémies dans le passé, notamment la fameuse pandémie qui est mal nommée toujours de la grippe espagnole, disons celle de 1918. Et vous dites que il y a un nombre mathématique, ou enfin un processus mathématique qui survient pour mesurer d'une certaine façon l'efficacité des mesures qu'on prend en période de pandémie.
Oui, c'est le fameux R0. Alors, c'est une mesure qu'on utilise pour caractériser une épidémie dans une population. Alors, c'est un chiffre assez simple à comprendre. C'est essentiellement le nombre de personnes qui vont s'infecter lorsqu'on introduit une personne infectée dans une population. Et pour la COVID, on estime que ce nombre-là est de 3. Donc, en résumé, si quelqu'un arrive dans une population qui est infectée, cette personne-là va infecter en moyenne 3 autres personnes. Chacune de ces personnes-là va en infecter 3 autres et ainsi de suite. On peut voir que si on continue ce petit jeu-là de juste augmenter de 3 et de passer aux infections suivantes, on arrive à des grands chiffres très rapidement.
Et la méthode... Et on en a parlé un instant avec le docteur Liu. Enfin, j'ai repassé son... Elle a dit la tentative de freiner cette propagation-là, de ramener ce R0 au plus petit chiffre possible, donne des résultats lorsqu'on l'applique, là.
Ah oui. Alors, si le R0 est inférieur à 1, en fait, ce que ça veut dire, c'est si on a 100 personnes infectées, ces 100 personnes-là vont infecter... moins de personnes. Mettons que c'est 50 personnes, la moitié moins. Ces 50-là vont infecter la moitié moins 25. Et là, on peut voir que après quelques réductions comme ça, qu'on arrive très vite qu'il n'y a plus d'infection. Alors, le but qu'on veut faire lorsqu'on contrôle une épidémie, c'est d'abaisser ce R0 qui est présentement à 3 au début de l'épidémie à une valeur en bas de 1.
C'est toute la différence, c'est toute la différence, Benoît Masse. Essayons de l'illustrer. Quelqu'un nous écoute, là, il s'en va, mettons, au supermarché. Si on est dans un univers, là, rapproché, avec un R0 de 1 au lieu de 3, ben, il y a moins de risques qu'une personne en infecte plus. Une personne pourra en infecter une autre au lieu de 3 autres.
Ben, en fait, le R0, lorsqu'on le décompose, il y a 3 éléments. En absence de vaccins et d'antiviraux, il y a juste un élément qu'on peut travailler et qu'on peut avoir un impact sur la R0, c'est le nombre de contacts par jour qu'on a dans la population. Donc, c'est le seul élément sur lequel qu'on peut travailler présentement parce qu'on n'a aucun vaccin, aucun traitement. Alors, il faut drastiquement réduire nos nombres de contacts et l'équation est simple. Si on, en moyenne au Québec, on réduit nos contacts de 4, ben le R0 est diminué par 4. Alors, il passe de 3, on le divise par 4 et on obtient un chiffre plus petit que 1. Et là, on va gagner la partie. On va battre cette épidémie-là.
Mais et c'est pas important. Et Benoît Masse, c'est pas beaucoup. Réduire de 4 seulement.
Ben, si en moyenne, avant l'épidémie, pensez à combien de contacts vous aviez par jour avec des personnes. Mettons, c'est 20. Alors, il faut réduire ça par 4. Ça veut dire que là, maintenant, il faudrait que descendre ça à 5 personnes. Et il faut bien comprendre, ça, c'est une moyenne pour le Québec. C'est-à-dire, il y a plein, les services essentiels, les gens qui travaillent pour les services essentiels ne peuvent pas réduire leur nombre de contacts. Alors, c'est sûr que ça veut dire que le reste de la population, eux, faut qu'ils fassent encore des efforts plus grands pour réduire les nombres de contacts parce qu'il y a une grande partie de la population qui sont essentiellement tout le monde qui travaille dans les hôpitaux, tout le monde qui est le personnel de soutien pour les hôpitaux et tous les autres services essentiels, eux, ils essaient de réduire les contacts, mais forcément, ils sont pas capables de le faire au même niveau que nous.
Bien sûr.
Alors, le reste de la population, on peut diviser la population en deux groupes. Il y a le groupe A, qui est les services essentiels, les hôpitaux, le personnel de soutien, et eux, ils sont là pour nous soigner essentiellement et nous apporter des services essentiels. Et là, il y a le groupe B. Le groupe B, là, c'est vous et moi. Et notre travail, c'est de freiner l'épidémie pour donner du temps à l'autre groupe. OK? Et pour être certain qu'ils vont avoir les ressources et qu'on va pas avoir trop d'infections pour avoir dépassé la capacité du système de santé. Et c'est ça notre travail à nous tous, qui ne sommes pas impliqués dans les services essentiels, qui ne sommes pas sur la première ligne, c'est d'aider ce groupe-là et afin qu'on ne dépasse pas la capacité du système de santé. Donc, nous, collectivement, il faut avoir une discipline collective pour réduire le plus bas possible nos contacts.
Et ça marche. Dans le cas du Québec, si on regarde ça, notre système de santé non seulement tient le coup, il tient bien le coup, alors que du côté de New York, on a fait une entrevue tout à l'heure avec le docteur de Souza, elle a dit « nous sommes submergés ». Le gouverneur Cuomo est en train de faire sa conférence de presse, il parle de 8200 patients et de lits nécessaires. On n'est pas dans une situation semblable, par exemple, à New York.
Non, effectivement, mais... Il faut faire attention, c'est les chiffres qu'on regarde présentement au Québec. Ils ont 2 semaines de retard. On parle de cas qui sont hospitalisés, de cas qui sont aux soins intensifs, des décès, mais ça, c'est des infections qui ont eu lieu il y a 2 semaines. Si on soustrait 2 semaines, on est le 29 mars, qu'est-ce qu'on faisait au Québec le 15 mars? Alors, si vous vous souvenez bien, le 15 mars, oui, on avait commencé à imposer des mesures, mais c'était quand même assez volontaire et les restaurants étaient encore ouverts. Il y avait quand même pas mal de contacts à ce moment-là. Alors, typiquement, les autorités, ce qu'ils font, ils essaient de mettre ces restrictions-là de façon volontaire et à chaque jour, ils serrent un peu la vis pour être certain que les gens comprennent le message qu'il faut réduire. C'est notre seul outil présentement.
Exact.
C'est de réduire les contacts qu'on a et afin de freiner cette épidémie-là.
Et Benoît Barre, je le disais au docteur Barrette, il était d'accord, on lutte à main nue. Il n'y a pas de médication pour ramener rapidement les jeunes. Médication éprouvée, j'entends. Le vaccin, bien sûr que ça prendra un vaccin éventuellement, mais quand je dis éventuellement, On en a pour peut-être un minimum d'un an et plus. Donc, nous allons faire face à cette pandémie à main nue. Comme si, comme les grandes pandémies de l'histoire, Benoît Mas, alors que les gens n'avaient pas de médicaments, pas d'antibiotiques contre la peste, qui est une bactérie. Donc, on n'est pas mieux finalement. Oui, on est mieux dans notre système de santé qu'au Moyen-Âge pour traiter les gens, mais pour freiner l'épidémie, c'est encore la bonne vieille méthode de l'isolement.
Oui, présentement, c'est la seule arme qu'on a. Il va falloir que tout le monde, comme je disais, ça va prendre une discipline collective. Parce qu'il faut que ça ne peut pas juste avoir un segment de la population qui réduit ses contacts et l'autre segment qui ne le fasse pas. Ça va prendre l'effort de tout le monde. Et c'est important que tout le monde comprenne, l'effet de nos efforts. Ces efforts-là sont concrets. Comme on a mentionné, le R0 au début de l'épidémie, il est à 3. Si tout le monde fait un effort, on va descendre ça en bas de 1 et ça va être une question de temps. En fait, on l'a observé. Si on regarde le SRAS en 2003, le R0 au début, il était aussi à 3. Et le SRAS de 2003, on a rapidement découvert que les infections se passaient surtout dans le milieu hospitalier. Les gens étaient très, très malades et c'est là qu'ils devenaient très, très contagieux. Une fois qu'on a compris ça, on a mis des mesures pour contrôler les infections, la propagation du virus dans le milieu hospitalier. Le R0 est descendu très rapidement en bas de 1 et le SRAS de 2003 a disparu. On a complètement battu cette épidémie-là.
Exactement. 774 morts au total dans le monde et 43 à Toronto, Benoît Mas.
Oui, exactement. Alors, c'est sûr que le SRAS de 2003, on connaissait très bien où se faisait la transmission secondaire, qu'on appelle par les personnes infectées. Pour la COVID-19, ça va être beaucoup plus difficile. Ouais. Parce que là, ce qu'on sait, c'est que la transmission, ça ne fait pas seulement dans les hôpitaux, mais ça fait partout ailleurs. Alors là, ça va être beaucoup plus difficile de contrôler cette épidémie-là que ça a été pour le SRAS de 2003.
Merci beaucoup, Benoît Mas. Toujours intéressant. Au revoir.
Merci.
Benoît Mas est professeur de médecine sociale et préventive à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Richard Châteauvert, au retour.